Béni soit Dieu et merci au Seigneur de vous voir, d'être avec vous, pour adorer le Seigneur dans sa grâce infinie. Mes frères et sœurs, si je vous disais, on est bien dans la présence de Dieu, qu'est-ce que vous me diriez ?
Amen.
Je vous dis, on est bien dans la présence de Dieu. Préférez-vous applaudir ou dire Amen ?
Amen.
Bravo, alors je suis d'accord avec vous. Je voudrais donc ouvrir avec vous deux passages de l'Évangile, l'Évangile de Jean, chapitre 6 d'abord. Et puis, ne soyez pas étonnés, nous allons lire dans Marc à peu près la même chose, car ce que nous allons lire ce matin se retrouve à peu près 6 fois dans les 4 évangiles. 6 fois le même miracle et à peu près 6 fois les mêmes épreuves et les mêmes difficultés. Mais tout d'abord, on va regarder dans Jean chapitre 6. Lorsque nous sommes dans Jean chapitre 6, nous nous arrêtons sur le verset 14. Jésus vient de multiplier des pains et des poissons. Vous connaissez le miracle. Mais regardez la suite. Verset 14, Jean 6, 14. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait nuit déjà. Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent. La mer était agitée. Après avoir ramé environ 5 à 6 kilomètres, ils virent Jésus marchant sur la mer, s'approchant de la barque, et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur !» Ils voulaient donc le prendre dans la barque. Et aussitôt, la barque aborda au lieu où ils allaient, et je vous propose de dire avec moi, « Amen !» Frères et sœurs, dans ce texte, nous allons découvrir plusieurs vérités. Premièrement, la richesse de la présence de Jésus. La présence de Jésus, vous l'aimez ? Cela nous amène des fois à une autre expérience, l'absence de Jésus. Vous l'aimez ? Mais il y a beaucoup de Normands parmi nous, d'accord. Ce texte nous rappelle une troisième vérité, l'absence présente de Jésus. Étant absent, il est présent quand même. Et ça aussi, on l'aime. Et ce que cela a apporté dans notre cœur. Alors, je voudrais attirer votre attention sur cette parole, mes frères et sœurs, de ce texte où il nous est dit « Il faisait déjà nuit, verset 17, et Jésus ne les avait pas encore rejoints. » Et il est possible que ce matin, parmi nous, se trouvent des frères et sœurs qui se réjouissent, bien sûr, de chanter, de glorifier Dieu, mais ont une peine dans leur cœur. Ils ne sentent plus la présence de Jésus. Jésus ne les a pas encore, pas encore. Vous avez prié, pas encore exaucé. Vous avez prié, désiré, cherché, pas encore exaucé, pas encore. Vous réclamez la délivrance de vos bien-aimés, pas encore. Vous réclamez la conversion de vos enfants, pas encore. Vous réclamez du travail, pas encore, pas encore, pas encore. Et ça, c'est un mot qui fait mal. Alors, on entend des témoignages de frères et sœurs qui disent « Le Seigneur a fait ceci, le Seigneur a fait cela. » Et vous, vous dites au fond de votre cœur, « C'est pas encore pour moi. » Si c'est ça, alors j'ai 4 choses à vous dire de la part du Seigneur pour tous ceux qui peuvent dire « C'est pas encore. » Ça me va ? Pas encore. Ce texte nous montre, tout d'abord, le bonheur d'avoir la présence de Jésus. Regardez. Jésus est au milieu de cette foule, il multiplie les pains, il multiplie les poissons, il multiplie sa grâce, si bien qu'ils sont 5 000 hommes, sans compter et les femmes et les enfants. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils sont témoins de 5 000 bénédictions. Eh bien, ce matin, Seigneur, fais la même chose au milieu de nous. 5 000 bénédictions. Hey, attendez, 5 000 hommes. Mais ajoutez les mamans et les enfants, vous verrez que c'est une bénédiction abondante. Quand Jésus est là, les bénédictions se multiplient. Et nous sommes rassasiés, et même quand c'est fini, il en reste toujours pour nos cœurs. Oui, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et le Seigneur nous a donné ce texte. Et pourtant, vous me direz, oui, mes frères, mais moi, pas encore. Non. Frères et sœurs, c'est le grand succès pour Jésus. Remarquez que les gens disaient, ah, celui-ci est vraiment le prophète qui devait venir. Donc, il est reconnu par la foule. Le texte nous apprend aussi dans les autres évangiles que quand le roi Hérode a compris et a vu ça, il a demandé à voir Jésus. Donc, voyez-vous, la renommée de Jésus s'est étendue jusqu'au roi Hérode. C'est comme si nous, dans notre assemblée ce matin, la présence de Jésus se répande avec puissance et ça touche l'Élysée où il y a Macron, qui dira, comme Hérode, « Je désire voir Jésus ». Qu'est-ce que vous diriez ? Pour la France, qu'est-ce que vous diriez ? Amen ! Le palais du roi est remué parce que on dit des choses sur Jésus et il voudrait le connaître. Et puis, en plus, frères et sœurs, c'est non seulement le succès, mettez-vous à la place des 12 apôtres, qui habituellement sont ballottés. Ce jour-là, la foule veut reconnaître Jésus, non pas comme prophète, mais comme roi, maximum. Vous remarquez donc que, pour eux, c'est une journée inoubliable. Ils passent un moment formidable et rendre grâce à Dieu, parce que tout va dans le bon sens. Et ça nous arrive des fois dans la vie chrétienne que tout va dans le bon sens, pas vrai ? D'accord. Tout va dans le bon sens, mais pour moi, Jésus ne m'a pas encore rejoint. Cette bénédiction-là, je ne l'ai pas encore. Alors, ce qui est étonnant, voyez-vous, c'est que dans l'Évangile selon Marc, ils avaient le même récit, et il y a une petite phrase que je voudrais souligner avec vous, qui correspond à cela, c'est dans Marc chapitre 6, et au verset 45, si vous avez du mal à chercher, je lirai lentement, pour que vous puissiez le trouver, mais ça vaut la peine de mettre ces deux textes ensemble. C'est le même passage, mais vu par Marc. Regardez. Aussitôt après. Après quoi ? Après le miracle. Hein ? Aussitôt après. Vous allez être choqués là. Il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui, de l'autre côté. Frères et sœurs, là on va parler de l'absence de Jésus. Jésus oblige ses apôtres, après un tel miracle, à prendre le bateau et aller de l'autre côté. Il les oblige. Littéralement, l'Écriture nous dit, il les contraint. Ils s'opposent. Eux, ils voudraient rester, mais ils les poussent à aller dans le bateau et d'aller de l'autre côté avant lui. Souvent, on dit, Seigneur, sois devant moi, mais là, il dit, allez avant moi. Il les oblige à partir. Il les oblige à partir, et pourtant, frères et sœurs, il sait ce qui va se passer. Il n'a pas écouté Evelyne Delia. Mais il savait qu'il allait y avoir des perturbations météorologiques. Et il y a souvent, mes frères et sœurs, des frères et sœurs malheureux, pas ici, mais parce qu'ils ont une foi météorologique. La météo, c'est, il y a une différence entre le ressenti et le réel. Et souvent, frères et sœurs, on est malheureux parce qu'on se base sur le ressenti. Et c'est pas le ressenti qui donne la foi, c'est la parole de Dieu. Amen. Envers et contre tout. Bon, alors le Seigneur est fait partir. Et je lui disais l'autre matin au Seigneur, mais pourquoi tu les as fait partir ? Tu avais peut-être peur que la foule, étant pleine de dynamisme, ça leur tourne la tête et puis ils deviennent orgueilleux. C'est pas moi. Pourquoi tu les as obligés, Seigneur, à aller de l'autre côté ? Pourquoi les obliger à prendre le bateau la nuit? Pourquoi les obliger à passer une tempête? Pourquoi les obliger à ramer 6 kilomètres avec un vent contraire? On va le voir. Jésus est absent et il leur dit « passons de l'autre bord ». Frères et sœurs, les apôtres maintenant sont dans la barque. Dans l'absence de Jésus, plus un regard de Jésus, plus une parole de Jésus. Il est parti, il n'est pas là, il est absent. Ça fait mal de ne plus ressentir sa présence. Et si ce matin, mon frère, ma sœur, tu ne ressens plus sa présence? Venir au culte, ce n'est pas tellement une soif, c'est une habitude, c'est une routine. Assister au culte, ça commence à telle heure, vivement que ça se termine. Pourtant, tu chantes, mais le cœur n'y est plus. Il dirait, mes frères, le cœur n'y est plus parce que je ne suis pas encore exaucé. J'ai pris le baptême, je croyais que, et puis j'ai vu des choses merveilleuses du temps de ceci, du temps de cela, mais aujourd'hui, vous voyez, je ne vois rien. Le Seigneur ne m'a pas encore rejoint, moi. Dans l'absence de Jésus, mes frères et sœurs, il est important de considérer que l'Écriture nous dit qu'ils rencontrent un vent contraire. Donc ils sont seuls, dans la nuit, un vent contraire, une mer déchaînée, et alors ils sont là dans l'absence de Jésus. Frères et sœurs, aujourd'hui dans le monde, Jésus est le grand absent. Le monde l'a crucifié. Nous savons qu'il est présent parce que nous croyons qu'il est mort, bien plus, nous croyons qu'il est
ressuscité.
Voilà, c'est ce qui fait toute la différence. Il est donc vivant, non pas planant quelque part sur un nuage, mais il a précisé où était sa présence. Il a dit, je m'en vais, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Et où est Jésus? Dans le ciel? Oui, et pourtant il est au milieu de nous. Il est dans notre cœur. Et pourtant, avec toi, mon frère, ma sœur, qui dit, le Seigneur ne m'a pas rejoint, il t'a rejoint et il va te rejoindre ce matin. Il m'a chargé de te le dire. Jésus est absent. Un petit peu comme nous, aujourd'hui. Certains chrétiens disent, oh, j'aurais voulu vivre du temps de Jésus. Mais mes frères et sœurs, ce matin, c'est le temps de Jésus. C'est le même temps, même mieux. Il y a le Saint-Esprit qu'ils n'avaient pas. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait dans l'absence? Eh bien, vous remarquerez, frères et sœurs, que quand on ne sent plus l'absence, la présence de Jésus dans notre cœur, il y a 4 dangers. Le premier danger, quand on ne sent plus sa présence, c'est de s'endormir. L'Écriture nous parle, Jésus nous parle de la parabole des 10 vierges. Il écrit, l'époux n'étaient pas encore venus. Alors, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles se sont endormies. Bon, il y en a qui ont pris des réserves, mais ce n'est pas mon propos. Elles se sont endormies. Ça veut dire que quand Jésus n'est pas là, quand il tarde à venir, il dit, Seigneur, tu n'as pas encore rejoint, si on reste là, on s'endort. Réveille-toi, dit le Seigneur, toi qui dors. Puis, le deuxième danger, frères et sœurs, c'est d'enfouir dans la terre le talent qu'il nous a donné. Vous savez, il donne à 5 talents, il donne 1 talent à 2 talents à l'un, 1 talent à l'autre, et l'Écriture nous dit qu'il est parti. Et pendant qu'il était parti, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien, certains ont mis les talents en route, et d'autres, ils ont fait un trou, et ils ont enterré leurs talents. Parce que le Seigneur est absent, bah, tu as reçu quelque chose, mais dire non, comme je ne sens rien... Je fais mon talon, je l'enterre. Et quand Jésus vient, quand Jésus est en train de revenir, il va régler ses comptes. Chacun va lui dire, Seigneur, tous ces dons d'amour que tu m'as donnés, voilà, cette miséricorde d'amour, je l'ai donné, ce témoignage, je l'ai donné, et l'autre, il vient, avec une tête longue comme un pin, il vient, et qu'est-ce que tu as fait? Bah, Seigneur, quand j'ai reçu ton talent, comme tu tardais, je suis dit, t'es dur, alors je l'ai enterré. Donc, une terre, une tête d'enterrement. Et maintenant que je sais que t'es venu, eh bien, j'ai une autre tête, une tête peureuse, parce que, Seigneur, j'ai désobéi. L'absence de Jésus non seulement nous endort, mais des fois nous rend inactifs avec la grâce qui nous a été donnée. Et troisièmement, et ça c'est la plus terrible, l'absence de Jésus, et il nous l'explique, va conduire certains à se taper dessus, à se disputer. L'Écriture nous dit, un serviteur, voyant que son maître tardait, se mit à battre ses gens, à manger et à vivre comme le monde. C'est pas vrai, ça? Oui. Et vous avez remarqué que quand on perd, on n'a plus Jésus, on a tendance à s'opposer les uns aux autres. On a tendance à ne plus supporter le caractère de l'un et de l'autre. Et on a tendance à dire, oh, faut que je trouve une autre église, parce que c'est ailleurs, c'est tellement différent. Mais mes frères et sœurs, les hommes sont différents? Non, sont tous pareils. Et si vous changez une église pour trouver la présence de Jésus, vous allez trouver autre chose que la présence de Jésus. L'Écriture nous dit que c'est là, dans ce lieu-là, que l'Éternel envoie ça. Et sa bénédiction, c'est la richesse, c'est les pains qui multiplient, c'est l'abondance de Dieu. C'est ça, sa bénédiction. Alors, bon, si je ne ressens pas la présence de Dieu, qu'est-ce qui peut m'arriver? Il peut arriver que je mens. Très bien. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il peut m'arriver? Que j'enterre mon talent, j'ai un visage d'enterré, et quand je ressors, j'interroge un visage de déterré. Vous voyez, ce n'est pas brillant. Troisièmement, pardon? Oui. Il y a la discussion, on se bat, et attendez. Quand les apôtres étaient avec un monsieur qui était possédé, il y avait un fils possédé, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, il est écrit que lorsque Jésus est arrivé, il leur a posé la question, sur quoi discutez-vous entre vous? Jésus était absent. Et ils discutent sur le démon, sur ceci, sur cela. Et aujourd'hui, à cause de la non-présence de Jésus chez certains, eh bien, comme Jésus, tu ne le ressens pas, tu discutes, et pendant ce temps-là, le diable règne. Frères et sœurs, pour voir la bonté de Dieu, pour triompher de ce Seigneur ne m'a pas encore rejoint et qui risquerait de m'endormir, de me dévier de la parole de Dieu, de juger mes frères et mes sœurs, eh bien ce matin, je veux entendre ta voix parce que je sais que ce matin, tu vas me rejoindre et ce que je vais obtenir de toi, c'est exactement ce que mon cœur t'a demandé. L'absence de Jésus a conduit une femme à accuser Jésus et à lui dire, Seigneur, toi, si tu avais été présent, eh bien, si mon frère est mort, c'est de ta faute. Vous savez cette femme, qu'est-ce qu'elle a dit? Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Langage terrible de l'adversaire. Si Dieu était là. Mais oui, mes frères et sœurs, qu'il y ait mort ou vie, Dieu est là. Amen. On n'est pas des chrétiens qui avons une foi de météorologie, c'est-à-dire du ressenti. Nous avons une foi de ce qui est écrit. Et le Seigneur Jésus a écrit et a dit, « Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis avec vous. Et je suis avec vous tous les jours. » Et pourtant, ce n'est pas n'importe qui, Marthe. Mais même Marie, qui était une femme qui était assise aux pieds de Jésus, qui aimait la parole de Jésus. Marie a dit la même chose, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Et voyez-vous, ce qui est important à considérer, frères et sœurs, c'est que Marthe et Marie disent que la raison de la mort de leur frère, c'est de la faute de Jésus. Et ça, c'est souvent l'adversaire qui nous dit, « Tu vois, où tu n'as pas la foi ?» ou tu es un rétrograde, ou alors même le Seigneur t'a oublié. C'est à cause de ton absence. Et quand on connaît la vérité, vous la connaissez la vérité? La Bible nous dit la vérité, c'est que Jésus voulait être absent. C'est ça la vérité. Il est écrit qu'il dit à ses disciples, « Lazare, notre ami, est mort. » Il savait. Et il a voulu être absent. Et si ce matin tu as des doutes dans ton cœur, c'est peut-être parce que le Seigneur a voulu être absent, non pas pour te faire du mal, mais toi, pour te couronner, pour te dépasser au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Amen. C'est ce qui s'est passé pour Marthe et Marie. Si tu avais été là, Seigneur, Jésus répond, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et elle a vu quelque chose de Jésus qu'elle n'avait jamais vu. Un cadavre qui pue, qui ressuscite, qui parle et qui mange. C'est pour ça que Jésus ne voulait pas venir, parce qu'il avait prévu quelque chose. Pourtant, ils auraient pu dire, Seigneur, si tu nous avais rejoints. Quelqu'un dira, oui, mais vous savez, le Seigneur, moi, je ressens plus sa présence. Et puis, dans le fond, c'est de ma faute. J'ai péché. Et le diable dit, oui, c'est vrai, t'as péché. T'es un pauvre chrétien, t'es une pauvre chrétienne, t'es un hypocrite, tu chantes avec ton cantique, tu mets ton foulard, mais là-dedans, il y a des mauvaises choses. Alors, le Seigneur t'a mis de côté. Ça, c'est aussi un langage de Satan. Un exemple. Où est Pierre au moment où Jésus passe devant les tribunaux? Il est avec les ennemis de Jésus. Il est assis avec eux. Plus, il se chauffe avec eux. Et quand le coq se met à chanter, avant qu'il chante, il a renié son maître 3 fois. Et regardez, Jésus est absent. Il est peut-être absent, mais il n'est pas loin. Jésus ne s'est pas éloigné de Pierre. Jésus n'a pas tapé un bon coup sur la tête de Pierre. Jésus l'a regardé. Il est écrit que lorsque Pierre a vu le regard de Jésus, il est revenu. Frères et sœurs, nous avons le même Seigneur ce matin au milieu de nous. Ma sœur, mon frère, ne te prive pas de la Sainte Cène, ne te prive pas de l'adoration, ne te prive pas de ne pas ouvrir la bouche. Même si tu as péché, nous avons auprès du Père un avocat. Et si nous les confessons, nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et Satan, tu me fatigues quand tu me rappelles toujours mon péché ou telle et telle faiblesse. Je sais que je suis un pécheur, je sais qu'il n'y a rien de bon, mais je sais aussi que je puis tout par celui qui me fortifie. Et là, il va vous laisser tranquille. Donc ça, c'est l'absence de Jésus. Mais son absence, mes frères et sœurs, est en réalité une absence présente. Vous ne trouvez pas? Oui, regardez. Il ne voit pas le Seigneur. Mais l'Écriture nous dit, Jésus les voit. Eux, ils sont sur la mer en train de suer parce que le vent est contraire. Et Jésus est sur la montagne en train de prier. Ça veut dire que même que tu ne sentes pas la présence de Jésus, moi, il m'a chargé de te dire que Jésus prie pour toi. Il l'a dit à Pierre avant la chute, il a dit, « Simon, Satan t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Et ta foi ne va pas défaillir, et tu vas repartir. Et non seulement tu vas repartir, mais quand tu vas être reconverti, tu vas faire du bien à tes frères. Alors, ma sœur, mon frère, ne te laisse pas abattre ce matin. » Mais dit, je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Regardez Job. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Ma sœur, mon frère, qui depuis des semaines, on n'entend plus ta voix, ce matin, élève-la, ta voix, et dit, Seigneur, oui, j'ai mal, Seigneur, je ne comprends pas, tu n'es pas encore intervenu, tu n'es pas encore venu, mais Seigneur, je ne comprends pas ceci, mais je bénis ton nom, je loue ton nom, et vous allez voir que le reste, c'est le Seigneur qui va le faire. Parce qu'il est écrit que quand on loue le Seigneur, l'adversaire s'en va. Il n'accepte pas que nous entendions louer son nom. Il accepte des pleurs, des pourquoi, des murmures, mais louez-le. Voyez-vous, il y a une chose aussi à considérer. Pourquoi, après un tel miracle, Jésus les a envoyés tout seuls? Vous voulez gagner un petit taureau? Pourquoi il les a envoyés? Il disait alors, pour qu'ils découvrent qu'ils sont faibles, non, pour qu'ils découvrent sa véritable identité à ses apôtres. Parce que les apôtres étaient des gens comme nous. Et l'Écriture nous dit que la foule disait, c'est un prophète. Et puis même un apôtre un jour a dit, Seigneur, à quel autre? Irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Mais il y a une chose que les apôtres n'avaient jamais dit. Vous allez voir, ça va nous servir de conclusion. Et ils vont la dire. Et c'est pour ça que le Seigneur les a amenés dans cette épreuve. C'est pour ça que le Seigneur n'avait pas encore répondu à leurs prières. Parce qu'il voulait les amener à découvrir, non pas qu'ils étaient des super ou des minables, mais quelle était sa vraie nature à lui, Jésus. Sa vraie nature. Eh bien, ils vont le découvrir dans ce miracle formidable de la mer secouée. Par la grâce de Dieu, le Seigneur va se révéler à eux. Et regardez, j'ai noté ceci. Pendant qu'ils sont en train de se débattre, Jésus est absent. Qu'est-ce que Jésus fait? Aidez-moi, il prie. On ne sait pas pour qui il prie, mais moi, je pense qu'il prie aussi pour ses disciples. Et ce matin, il m'a chargé de te dire, je prie pour toi. Comme je prie pour toi, tu vas garder la foi. Puis, il y a une deuxième chose qui me choque et qui me fait du bien. Il est écrit que il tourne la tête dans sa prière et il voit. Il voit quoi? La barque au milieu. Et il voit le vent, la mer déchaînée. Et ce n'est pas tellement ça qu'il voit. Ce qu'il remarque surtout, c'est qu'ils avaient de la peine. Il voit la peine. Et mon frère, ma sœur, même si tu ne sens pas sa présence, je suis chargé de te dire qu'il prie pour toi et qu'il voit ta peine. Et qui entend ta prière, pas encore Seigneur, pas encore ma famille convertie, pas encore cette guérison, pas encore cette prière que je t'adresse, pas encore. Eh bien, il m'a chargé de te dire qu'il te voit, qu'il t'entend, et voilà ce qu'il va faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Bien, l'Écriture nous dit qu'à la quatrième veille de la nuit, il alla vers eux, marchant sur la mer. Je vous pose une question. Est-ce que, à votre avis, le Seigneur connaissait vraiment leurs problèmes? Vous répondez par oui ou par non? Ou zut si je vous ennuie? Connaissait-il vraiment leurs problèmes? Oui, mais comme c'était des gens logiques, ils n'avaient pas de montre à quartz, bien sûr, mais ils savaient que c'était la nuit. Et ils n'avaient jamais vu Jésus marche la nuit, sans pilvondaire. Ils n'avaient jamais vu ça. Ils n'avaient jamais vu Jésus marchant sur la mer. Et alors ils disent dans leur cœur, il y a 6 kilomètres entre toi et nous, et tu vas venir vers nous. Et il n'y a pas de route, il n'y a pas de chemin, pas possible ça. Et puis il fait nuit, tu n'as pas de radar. Comment tu vas faire? Vous pouvez se poser un tas de questions. Eh bien mes frères et sœurs, ce n'est pas un problème, ce n'est pas des questions qu'il faut se poser. C'est tout simplement un acte de consécration et de foi et d'obéissance. Je ne sais pas, Seigneur, comment tu vas? Eh bien, pour la première fois, ils vont voir ce qu'aucun prophète n'a fait, ils vont voir Jésus marcher sur la mer. Non seulement il marche sur la mer, mais regardez bien, il marche sur les eaux. Et s'il y a de la tempête, il y a des nuages. Et s'il y a des nuages dans ta vie, alors réjouis-toi. Et dis à l'adversaire, tu me laisses tranquille parce que, oui, regarde, mais t'as tant de nuages sur toi. Savez-vous ce que dit Nahum? Je vais vous dire ce qu'il a dit. Parce qu'un jour, pas pour vous, mais un jour, j'ai été éprouvé, sincèrement, dans mon cœur, à cause d'une épreuve profonde. Une tempête, quoi, ça peut arriver. Et il m'a donné de lire, et ça m'a fait du bien, Nahum, chapitre 1, verset 3. Je ne sais pas, mais lisez-le chez vous, c'est formidable. Il est écrit ceci. Il vient, écoutez bien, il marche dans la tempête, il marche dans le tourbillon, et les nuées que tu vois, c'est la poussière de ses pieds. Alors, les nuages que tu vois, mon frère, ma sœur, dans ta vie, le Seigneur nous dit, c'est la poussière de ses pieds. Si c'est la poussière de ses pieds, c'est qu'il est en train de venir. Et s'il est en train de venir, tu dis « Amen, viens Seigneur Jésus !» Et alors, tu repars victorieux. C'est ce qu'il fait. Il marche sur les eaux. Je n'ai jamais vu ça. Il avance. Et non seulement, mes frères et sœurs, il avance, mais il va très vite. Parce qu'il les rattrape, et non seulement il les rattrape, mais il voulait les dépasser. Et je voudrais te dire, ma sœur, mon frère, que le Seigneur a un désir, c'est de te dépasser, c'est d'aller au-delà de tout ce que tu peux imaginer, et si vraiment dans ton cœur tu le crois, il est là pour ça. Et dans sa bénédiction, il va très vite, il les rejoint, et il veut les dépasser. Vous avez remarqué, frères et sœurs, le verbe « vouloir » Les apôtres ne voulaient pas aller dans la tempête. Pourquoi sont-ils dans la tempête? Qu'est-ce qui les a mis dans la tempête? Répondez-moi. Qui? Le Seigneur. D'accord. Il les a obligés. Parce que c'était des marins, ils savaient qu'il y avait de la tempête. Il les a obligés. Et là, regardez encore, il veut les dépasser. C'est sa volonté d'aller au-delà de toute chose pour que nous puissions pleinement être heureux et comblés. Il veut te dépasser. Et je voudrais dire, comme Job a dit, je reconnais que tu peux tout. Oui, mon frère Claude. Seigneur, je ne suis pas grand-chose. Je suis qu'une petite étincelle. Mais je reconnais que tu peux tout. Parce que par ta grâce et par ta puissance, tu me rends fort. Parce que le sang de Jésus m'a purifié. Parce que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Et Satan ne peut pas l'effacer, il n'y a que toi qui peux le faire. Alors Seigneur, je sais en qui j'ai cru. Et parce que c'est cela, même Seigneur, si tu ne réponds pas encore, je m'attends à toi. Jésus ne t'a pas encore rejoint, mais ce matin il le fait. Et ça se termine par la présence de Jésus. Absent, mais présent. Présent, mais absent. Et pourtant, ce matin, il est là. Et cela m'amène à vous demander de réfléchir à quelque chose de particulier. Les apôtres, jusqu'à ce jour, qu'est-ce qu'ils ont vu de Jésus? Allez, dites-moi, quelques miracles. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Que Jésus pouvait changer de... D'accord? Multiplier les pains et les poissons, ressusciter les morts, purifier les lépreux, un théologien, votre pasteur. Pardon ?
Chasser les démons.
Les démons lui étaient soumis. Guérir toutes les malades, les aveugles, les paralytiques, les sourds, les boiteux, les canneux. Ils ont tout vu. Hein ? Et quand Pierre parle, il dit Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Mais là, le même récit que je vous ai lu, dans Matthieu 14, il est écrit que lorsque les apôtres, qui étaient dans la barque, dans la tempête, dans la nuit, l'ont vu monter dans la barque, le vent s'est arrêté, ils ont dit ce qu'ils n'avaient jamais dit. Et c'est ça que le Seigneur avait voulu provoquer, en ne répondant pas tout de suite. Pour qu'ils arrivent à dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Ma sœur, c'est pour ça que tu passes par l'épreuve. Il faut que tu découvres qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Au-delà de tes questions, au-delà de ta faiblesse, au-delà de ta misère, il est infiniment grand. Et il peut faire, comme le dit l'Écriture, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser et imaginer. Ils se sont mis dans la barque pleine d'eau, ils se sont mis pratiquement à genoux. Ils se prosternèrent et lui dirent, dans cette barque, tu es véritablement le Fils de Dieu. Ma sœur, mon frère, dis-le ce matin, quand au moment où on va adorer Dieu, tu n'as pas besoin de faire une longue prière, dis, Jésus, pour moi, tu es véritablement le Fils de Dieu. Et tu vas voir qu'en disant cette prière dans la foi, le Saint-Esprit va descendre sur toi et ton être va être entièrement changé. Qu'est-ce que le Seigneur demande de toi? Bien, c'est Michée, je crois qu'il dit. C'est que tu aimes la miséricorde, tu crains Dieu, pardon, tu aimes la miséricorde et tu marches humblement avec ton Dieu. C'est tout ce qu'il te demande. Il ne te demande pas de faire des neuvaines, de réciter des prières, de donner de l'argent. Il demande que tu marches avec lui, dans l'humilité, dans la foi, la crainte de son nom, c'est-à-dire obéir à ce qu'il t'a dit. Et alors, par sa grâce, tu vas dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Car si vous ne croyez pas à ce que je suis, dit Jésus, vous mourrez dans vos péchés. Est-ce qu'il y a ce matin des frères et sœurs qui croient que Jésus est vraiment le Fils de Dieu? Oh, alors là, je suis comblé. Vous savez, dans le monde, quand les gens voient un spectacle et ils sont contents, ils sont heureux, qu'est-ce qu'ils font? Ils applaudissent. Eh bien, nous, on fait le contraire. On n'applaudit peut-être pas, parce qu'on applaudirait des hommes, mais je vais vous dire ce qu'on fait. On ouvre la bouche. Car il est écrit le fruit de nos lèvres, pas de nos mains. Mais tout le monde peut taper des mains, le diable aussi. Mais il y a une chose que le diable ne peut pas faire. Il ne peut pas dire Alléluia !
Alléluia !
Oh frères et sœurs, je pense à ce frère de Zigane qui s'appelait Tarzan, que j'ai bien connu. Oui, j'ai raconté l'histoire. oui, ses chaussures à Wilgat. Il avait perdu de chaussures, et puis comme il était vraiment zélé, il disait toujours dans l'église, une église réformée, il était en vacances, il n'avait pas trouvé d'autres assemblées, et quand le pasteur citait des vérités, il disait « Alléluia, parole de Dieu !» Ça a été une fois, deux fois, trois fois. Au bout de quatrième fois, une petite dame avec une voilette noire. Il lui dit « Vous êtes gitan, oui. Ça se sent. Vous êtes gitan, oui. Ça s'entend. D'accord. » Alors, dites une bonne chose. Ne dites plus « Alléluia ». Parce que chez nous, on ne dit pas « Alléluia ». Vous n'êtes pas chez les « Alléluia ». Et je vous assure que si vous m'obéissez, je vous offrirai par mon mari deux ou trois paires de chaussures neuves. Et comme Tarzan, il avait des chaussures qui ressemblaient à un requin, montant ses dents, il s'est dit « Ah ben oui, Seigneur. » Il n'a plus rien dit. Juste à la fin, quand le pasteur a fait ce qu'on appelle la doxologie finale, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux !» Il me dit « J'ai pas pu rester. Ah, j'ai pas pu. » Je me suis levé et j'ai dit « Tant pis pour les godasses, mais alléluia quand même !» Ce matin, ce que le Seigneur demande de nous, ce n'est pas des applaudissements. On n'applaudit pas le prédicateur, on n'applaudit rien d'autre. Dans nos assemblées, il y a une différence. Quand on est heureux, on dit
« Alléluia !»